vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Fabienne Cohen-Salmon et Lise Benkemoun qui nous parlent de Diasporama, regard sur le cinéma juif international. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Lise.
Bonsoir Sandrine.
Alors quelques mots hein, de présentation de ce festival et puis de Fabienne aussi hein, parce que vous êtes une habituée ici sur ce plateau et c'est un vrai plaisir à chaque fois de vous recevoir.
Un plaisir partagé Sandrine.
Vous êtes la directrice adjointe de la programmation culturelle du FSJU Centre d'Art et de Culture de l'Espace Rachi. Est-ce que ça va cette...
Oui, je pense que c'est parfait, c'est ça. Je suis plus rattachée au Fonds social juif unifié, je suis directrice adjointe du département culture du FSJU, mais on travaille depuis très longtemps avec le Centre d'Art et de Culture, avec un partenariat très solide, et on organise donc avec le Centre d'Art et de Culture ce fameux festival Diasporama.
Oui, et un ensemble d'événements culturels hein, qui nous font du bien.
Une programmation très riche toute l'année, et dont le festival Diasporama est désormais un temps fort. Hein.
Alors avec nous, il y a également Lise Benkemoun qui est la directrice de la programmation de cette édition de Diasporama et qui a imaginé un programme varié. Ça va, Lise? Tout va bien?
Bah oui, oui, on est en train de régler les derniers détails du festival et c'est toujours un plaisir.
Alors quelques mots hein, sur ce festival, il s'agit de la 5e édition de Diasporama, regard sur le cinéma juif international, premier festival international de cinéma juif en France, lancé en 2021 par le Centre d'Art et de Culture de l'Espace Rachi et le Fonds social juif unifié. Il a été inspiré par le célèbre festival du film juif de Toronto et cette année, cette nouvelle édition se déroulera du 28 janvier au 10 février 2025. L'occasion de découvrir de manière exclusive des fictions, des documentaires à thématique juive, tous inédits en France. Le festival Diasporama se distingue par son modèle mixte, des projections qui sont accessibles en salle à Paris et dans 18 autres villes partenaires, mais aussi en ligne, permettant à un public national, dom-tom compris, d'y participer. Pour cette 5e édition, 16 films français et internationaux, comprenant 8 fictions, 7 documentaires et une œuvre patrimoniale, ont été soigneusement sélectionnés pour leur qualité, l'intérêt de leur sujet ou leur présence dans des festivals reconnus et ces œuvres témoignent une fois de plus de la richesse et de la diversité de la représentation de la culture, de l'histoire et de l'identité juive dans le cinéma international. Alors la première question c'est pour vous Fabienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que représente ce festival Diasporama à la fois pour votre institution mais aussi pour le public ?
Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est un vrai temps fort. On a deux grands festivals, hein, au Fonds social juif unifié et au Centre d'art et de culture, le festival Jazz and Klezmer, qui débute la saison, le festival des cultures juives qui le conclut, et puis ce festival Diasporama qui, vous l'avez dit, est né en 2021 en pleine crise Covid. C'est un festival, effectivement, qui a été inspiré par le très fameux et très connu festival du film juif de Toronto. Et à cette époque, en 2021 où les cinémas étaient fermés, où la culture était sinistrée, eh bien nous avons décidé, par l'entremise hein, de ce festival de cinéma juif de Toronto, eh bien d'organiser un festival équivalent en France. À l'origine, ce festival était entièrement en ligne, donc il était constitué d'une programmation exclusivement en VOD, puisque vous le savez Sandrine, la mission du Fonds social juif unifié et du Centre d'art et de culture, c'est de pouvoir diffuser au plus grand nombre dans toutes les contrées, on va dire françaises, la culture juive, diffuser sa diversité, diffuser sa singularité. Et bien donc à l'époque, on s'est dit voilà, ce festival exclusivement en ligne peut être un outil justement pour aller à la rencontre du public, de ce public à l'époque qui était un peu esselé et donc pour leur proposer donc des œuvres totalement originales et inédites. Au fil des années, ce festival s'est développé en salle et cette année, je suis vraiment très fière, très heureuse eh bien d'annoncer que ce festival a lieu dans 18 villes de France, donc à Paris et 17 villes de France. Il sera donc programmés dans des cinémas d'art et d'essai, dans des centres culturels affiliés au Fonds social juif unifié, et dans toutes les délégations donc, du Fonds social, et également en VOD, et ce qui permettra aussi à un public qui ne peut pas se rendre au cinéma eh bien d'avoir accès à cette programmation. Et ça, c'est fondamental pour nous, c'est l'une de ces spécificités du festival. Et c'est, je dois le dire à ce titre, un festival absolument unique en France, puisque c'est le premier festival de cinéma international, mais également il a cette spécificité d'être proposé en salle et également en ligne.
Alors c'est une question que j'allais poser, vous m'avez devancé, hein, puisque ce festival, et c'est sa grande particularité, alterne des projections en salle qui soutiennent le réseau des cinémas français et des projections en ligne accessibles depuis chez soi. Comment le festival s'organise entre ces deux formats ?
Alors c'est très simple, c'est qu'on a une programmation en VOD qui effectivement s'étale sur toute la durée du festival entre le 28 janvier et le 10 février. Le public peut voir, donc peut sélectionner ses films sur notre plateforme. Il a ensuite un temps limité pour voir ses films parce que comme on l'a dit, hein, ce sont vraiment des films en exclusivité que nous proposons. Et puis en parallèle, il y a donc une programmation en salle, que ce soit dans des cinémas ou dans des centres culturels qui sont partenaires hein, de ce festival dans 17 villes de France avec des dates et des horaires bien définis où les gens là aussi peuvent prendre leur place et réserver la projection. Voilà.
Alors la programmation, c'est vous Lise qui l'avez pensé. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez à l'organisation de Diasporama ?
Non, en fait, c'est la troisième, Sandrine. L'année dernière, j'étais déjà directrice artistique du festival. Et la première année, j'avais fait simplement les entretiens avec les réalisateurs et les acteurs principaux. Et je suis ravie, puisque moi, je suis journaliste ciné. J'ai été journaliste ciné pendant des années. J'ai fait le festival de Cannes très longtemps. Et donc, je me fais un plaisir de voir une centaine de films avant d'en sélectionner la quinzaine qu'on va passer.
Alors justement, comment on choisit quelques films parmi des centaines d'autres ? Quels sont les critères qui justifient vos choix ?
Alors j'explique toujours, Sandrine, que c'est un savant cocktail, c'est comme une recette. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir effectivement des thèmes qui nous paraissent incontournables. Cette année, le festival commence le 28 janvier. Donc le lendemain du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc évidemment, ce thème de la Shoah a influencé la programmation de cette année, notamment avec un magnifique documentaire qui s'appelle Four Winters et qui raconte la résistance juive dans les bois, un épisode assez peu connu où 25 000 partisans juifs se sont réfugiés dans les forêts d'Europe de l'Est pour résister aux nazis. Également, plusieurs autres films sur ce thème, mais évidemment pas que ça. Et sachant qu'on avait également le 7 octobre qu'il fallait traiter absolument, parce que c'est un devoir de mémoire et d'actualité, on a choisi pour contrebalancer tout ça d'avoir en entrée et en clôture deux comédies. La première en ouverture qui s'appelle Yaniv, qui est très drôle et qui raconte un tournoi de cartes clandestins dans la communauté juive chassidique. Et le film de clôture, qui est un film hongrois, assez original, qui s'appelle All About de Levkovitch. Et donc, on a volontairement également avec Check Out ou avec Dieu et le chameau, instillé dans la programmation beaucoup d'humour juif, si possible. Et c'est tout cela qui fait le cocktail de Diasporama.
Alors, une programmation riche, diversifiée, des comédies, des documentaires et puis des commémorations aussi hein, sur les attaques du 7 octobre ou sur les 10 ans des attentats de l'hypercachère comme le film de Danny Menkin, celui de Sheryl Sandberg ou de Caroline Bongrand et Georges Benayoun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Alors, le film de Caroline Bongrand et Georges Benayoun, il est magnifique, il s'appelle « Looking for Yotam ». Il est consacré à un otage, Yotam Chaim, qui est mort à 28 ans, qui a été kidnappé le 7 octobre 2023. Et un mois et demi après sa capture, il va s'échapper de Gaza avec deux autres otages et malheureusement, par erreur, ils sont tués par les soldats de Tsahal. Et Caroline et Georges ont passé trois semaines avec la famille et les amis de Yotam pour comprendre vraiment qui il était. Et c'est un portrait qui est excessivement touchant et qu'on aura en avant-première nationale à Diasporama. Yotam, c'est un jeune homme fascinant qui était musicien, qui était roux, qui avait beaucoup de problèmes, qui s'est révélé véritablement être un héros pendant cette guerre de Gaza où malheureusement il a perdu la vie.
Alors, deux autres avant-premières nationales sont prévues, A Whale Pain de Jesse Eisenberg ou Le choix du pianiste de Jacques Houtmetzgine. Est-ce que c'est une nouveauté dans ce festival d'avoir en avance la possibilité de visionner un film qui sortira après dans les salles?
Non, ce n'est pas une nouveauté. On l'a fait l'année dernière, on l'a fait avec le film de Stéphane Stress et ça s'est très très bien passé. Et je pense que c'est une demande aussi beaucoup, à la fois en province et à Paris, des salles de cinéma. Parce que c'est plus facile pour eux de continuer la programmation d'un film après que nous, on ait déjà mis le spotlight dessus avec le festival. Donc, je pense que c'est assez naturel de notre part. Et pour A Real Pain, on est assez contents parce que c'est quand même un film produit par Searchlight et par Disney. Donc, on est quand même sur une très grosse production américaine. Et donc, ça nous fait plaisir. C'est une histoire qui nous concernait complètement, puisque c'est deux cousins qui se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne sur les traces de leur grand-mère, survivante de la Shoah, qui vient de mourir. Et là encore, ça mêle à la fois un duo improbable, de l'humour et quelque chose de tellement important, la transmission de nos valeurs juives.
Alors, parmi les autres moins forts, il y a ce film patrimonial à l'affiche, le chef-d'œuvre du cinéma muet Surrender de Edward Sloman, qui a été réalisé en 1927. Exceptionnellement, pour le festival, il sera projeté dans une version restaurée. Est-ce que vous pouvez nous en faire le pitch?
Alors, je vais laisser Fabienne, parce que c'est plutôt elle qui s'en occupe.
Alors oui, c'est un film qui nous a été proposé par Serge Bromberg, qu'on ne présente plus, qui est un peu dénicheur hein, de toutes ces pépites et de tous ces films patrimoniaux. On travaille avec lui depuis de nombreuses années pour Diasporama et je dois dire que c'est un vrai plaisir parce qu'il le fait avec un enthousiasme et un engouement rare et qui est même communicatif. Surrender, donc c'est l'otage en anglais. C'est un film effectivement dont il ne reste une seule bobine aujourd'hui, qui est donc détenue par Serge Bromberg et son équipe et qu'il a spécialement restauré pour le festival et qui sera donc projeté en exclusivité le dimanche 2 février à l'Espace Rachi cette fois-ci. C'est un film qui est muet hein, et qui est inspiré en fait de l'histoire de Guy de Maupassant. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, Boule de Suif, hein, qu'on ne présente plus, qui a un ouvrage donc, de 1879. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans son village de Galicie qui va avoir en fait qui va être confrontée à un épisode assez étonnant puisque elle va être un peu mise devant un choix face à l'amour éperdu que lui voue un commandant de l'armée russe. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a un lien en fait avec cette histoire effectivement de boule de suif. Je n'ai n'ai pas vu le film parce que justement ce film est en train d'être restauré. Donc c'est pour vraiment pour vous dire
que vous le découvrirez.
Que, voilà, je vais le découvrir quelques jours avant le public. Je vais avoir cette chance là, mais c'est effectivement une vraie exclusivité pour le public du festival. Et c'est d'autant plus une exclusivité que Serge Brambert va l'accompagner en fait au piano, ce film, parce que comme je l'ai dit c'est un film muet, et donc il va l'accompagner en live sur la scène de l'espace Rachi, donc durant la projection. Et il va évidemment, avec le talent qu'on lui connaît, présenter toute l'histoire aussi de la récupération de cette bobine, dont j'ai dit effectivement que c'est la dernière hein, survivante, et l'histoire en fait de la création de ce film, et également de son réalisateur Edward Sloman, qui est un réalisateur donc américain de la fin du 19e, début 20e. Voilà, donc Surrender cette année, c'est la pépite patrimoniale du festival, et j'invite le public effectivement à venir découvrir ce chef-d'œuvre.
Alors on vous écoute, et puis on s'aperçoit que ce ne sont pas uniquement des projections dans les salles ou à la maison auxquelles on peut assister, mais il y a aussi des échanges avec des réalisateurs, des journalistes, des critiques de cinéma, et même les films en ligne incluront des entretiens exclusifs avec les cinéastes. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi ?
Oui, alors ça c'est aussi un axe très important de Diasporama, c'est que ce qu'on souhaite, c'est pas uniquement projeter des films, mais c'est évidemment les enrichir de rencontres lorsqu'on le peut, avec les réalisateurs, lorsqu'ils peuvent se déplacer et venir présenter, et ça sera le cas pour plusieurs films cette année, mais également avec des critiques de cinéma, des journalistes, des spécialistes des sujets qui sont également abordés dans le film, parce que c'est important évidemment de donner des clés de lecture au public, de pouvoir échanger avec le public à l'issue des films. Est-ce que déjà les films ont plu ou pas, est-ce qu'ils ont voilà, des questions, et c'est vrai que c'est une façon d'enrichir réellement la programmation sur des films qui là encore sont exclusifs, et beaucoup de ces échanges seront menés par Lise Benkemoun, donc qui sera à nos côtés pendant toute la durée du festival, donc pour mener ces entretiens avec ces réalisateurs, ces réalisatrices et des spécialistes des sujets abordés.
Est-ce que Lise, vous voulez ajouter quelque chose ? C'est vrai qu'on est dans une période particulière dans le monde juif, pas seulement en France, mais en France en particulier, avec cette montée de l'antisémitisme qui inclut plusieurs logiques, celle de pouvoir se retrouver entre juifs ou pas seulement, et puis aussi de pouvoir poser des questions et essayer de comprendre comment on en arrive là. C'est quelque chose d'important, Lise, qu'il y ait des discussions et des moments de dialogue après les projections ?
Oh oui, plus qu'important, Sandrine. Je pense que c'est vraiment primordial. Et c'est vrai que c'est normal et c'est bien que le festival continue de faire de la VOD et que les gens puissent voir les films chez eux, s'ils habitent notamment dans une ville où les projections n'ont pas lieu en présentiel. Mais pour tous nos auditeurs qui sont sur Paris et la région parisienne, je vous conseille vraiment de venir en salle. On a la chance cette année d'avoir le réalisateur américain de Yaniv qui seront là. Julia Mintz, la réalisatrice de Forwarders, qui sera là. Le réalisateur de Dieu et le chameau qui sera là. On a des très belles soirées, même sur un documentaire assez original qui s'appelle Call Me Dancer et qui est sur la danse. On aura une danseuse de l'Opéra de Paris. Il va venir justement nous expliquer sa passion. Donc je pense vraiment qu'on a mis beaucoup de nous dans ces soirées. Et les gens sont ravis de venir débattre de leur passion, de leur film. Et donc je crois que ça apporte vraiment quelque chose et ça permet au public, à la fois, comme vous le disiez, Sandrine, de se retrouver et d'avoir un plus d'informations.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Fabienne Cohen-Salmon et de Lise Benkemoun, qui nous parle de la 5e édition de Diasporama, regard sur le cinéma juif international, qui aura lieu cette année, du 28 janvier au 10 février 2025, en salle ou en ligne. Alexandra Arcadie, Ruth Elkrief, président respectivement des jurys des fictions et des documentaires. Est-ce qu'ils ont accepté facilement cette invitation?
Mais oui. Donc oui, ils nous ont dit un grand oui tout de suite. C'est un plaisir évidemment d'avoir ces jurys d'une telle qualité cette année. Donc présidé effectivement par Alexandre Arcadi pour le jury des fictions et pour le jury des documentaires, on a effectivement la chance d'avoir Ruth Elkrief avec nous et puis d'éminentes personnalités, Radou Mihalehanou, le réalisateur. Donc de Vavier devient Pascal Elbé, Rachel Kahn, Patrick Braoudé, Katia Toledano et pour les documentaires Samuel Blumenfeld, critique de cinéma qu'on présente plus, qui officie au Monde, Nathalie Cohen, historienne qui est épatante et passionnante à écouter, mais également Elisabeth Bost qui est journaliste et Michael Darmon. Également. Donc, c'est un plaisir de les accueillir et puis de voir combien on est soutenu en fait et l'enthousiasme en fait qu'ils ont manifesté pour ce festival. Et je sais qu'ils ont énormément apprécié les films, que ce soit les fictions et les documentaires, que ces films vont peut-être même les inspirer pour leur création future. C'est vraiment un plaisir de les accueillir, c'est un vrai soutien aussi, une marque de reconnaissance aussi pour notre festival. Donc, et je tiens aussi à ajouter que cette année, Sandrine, on a créé un jury des étudiants.
Alors c'est ça, j'allais vous poser la question. Parce que pour les deux autres prix, le public peut aussi voter sur le site officiel du festival.
Il y a aussi un prix du public.
Avec un prix du public.
Tout à fait, ça, le public est invité à voter sur le site du festival pour son film préféré.
Alors, de quoi s'agit-il avec ce prix des étudiants?
Alors, ce prix des étudiants, on a souhaité également l'instituer cette année parce qu'il nous semblait important d'ouvrir aussi le festival à un public plus jeune et vraiment de les faire participer pleinement. Et donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir un jury de 6 étudiants en art et en culture qui sont en fait issus de l'UEJF, de l'Union des étudiants juifs de France. Ils se sont véritablement très impliqués dans le visionnage des films. Je sais qu'ils se rencontrent régulièrement pour déterminer là aussi leur lauréat. Et alors, ils ont une chance, le jury des étudiants, c'est qu'ils vont voir tous les films, contrairement au jury des fictions qui ne voit que les fictions et le jury des documentaires qui ne voit que les documentaires. Le jury des étudiants va voir l'ensemble des films, fiction et documentaire, et ils remettront donc leur prix à leur lauréat lors de la soirée de remise des prix le lundi 10 février à l'espace Rachi.
Lise, vous connaissez toute la programmation puisque vous l'avez pensée. Est-ce que vous pouvez dire a posteriori qu'il y a un fil conducteur ou un thème général qui relie toutes les diffusions, toutes les projections de ce festival?
Alors, paradoxalement, ce n'est pas forcément évident, mais la musique est quand même présente dans beaucoup de ces films, parfois de manière très subtile, comme vous l'entendrez dans Looking for Yotam, dont on parlait, sur un otage côté musicien. Dans Yaniv, elle a aussi beaucoup d'importance, puisqu'on est dans ce tournoi de cartes clandestins, dans un espèce de club de jazz klezmer. Dans Burst the Silence, évidemment, puisque c'était au départ une comédie musicale, et c'est devenu maintenant un film musical sur les rapports entre le père et son fils, les secrets de famille, le silence des gens qui sont revenus de la Shoah. Et comme je vous parlais de Call Me Dancer avec la danse, on voit bien en fait que voilà, il y a ce fil conducteur de la musique qui s'est trouvé un peu par hasard peut-être à notre insu dans cette programmation 2025.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est très riche quand on voit la programmation qui est disponible sur le site, hein, Fabienne. Alors d'ailleurs, si une auditrice ou un auditeur de la Fréquence Juive a envie de s'inscrire à une projection ou de visionner des films, comment fait-il?
Alors, il n'y a qu'une seule adresse, c'est très simple, diasporama.net. Sur diasporama.net, vous avez l'ensemble de la programmation, le planning des projections, en ligne et le planning donc des projections dans toute la France, comme je l'ai dit, dans les cinémas, dans les centres culturels. Donc que vous habitiez à Paris ou si vous avez la chance de vivre à Marseille ou à Toulouse, bon, c'est l'ancienne Toulousaine qui vous parle, et bien là aussi vous avez accès au site et puis vous pourrez voir bah, les projections qui ont lieu à Marseille, à Toulouse, à Nantes même, à Nancy, à Grenoble. Voilà, 17 villes de France sont participantes cette année et projettent les films. Et à ce sujet, Sandrine, je voudrais juste dire un petit mot sur les j'ai parlé bon, des centres culturels, évidemment, qui sont affiliés au Fonds social juif unifié et qui programmes, hein, qui projettent certains films du festival, mais également les cinémas. Il faut souligner leur courage, parce que c'est une période qui est difficile pour eux, évidemment aussi, post 7 octobre. On a eu des refus de certains cinémas qui n'ont pas souhaité travailler avec un festival du film juif. Donc les cinémas eh bien, qui ont accepté, il faut les souligner, les mettre en valeur, que ce soit le cinéma, le Lincoln à Paris qui nous a tout de suite dit un grand oui, mais également le cinéma le Belmondo, le cinéma l'Olympia, le Caméo à Nancy. Tous ces cinémas portent le festival, ils sont nos relais en région et il faut souligner voilà, leur courage, leur audace aussi de programmer un festival du film juif avec attention et avec enthousiasme.
Alors vous nous confirmez que c'est une réalité, hein, que les thématiques juives, ce qui est culturel, est boycottée en quelque sorte.
Oui, il faut le dire, oui, il y a certains cinémas pour lesquels effectivement ça pose problème. On en parlait d'ailleurs hier avec Alexandre Arcadi sur l'antenne d'une autre radio. Effectivement, oui, il y a certains cinémas qui sont réticents, qui répondent pas tout de suite, qui analysent les films, et je peux le comprendre, quoi. Évidemment, un programmateur va regarder, il y a des enjeux effectivement financiers, etc. Mais oui, on a eu affaire à des refus. Et c'est pour ça que les cinémas qui ont accepté, on les nomme, hein, dans le programme et ils sont.
Donc il faut les soutenir. Il faut soutenir ce festival du cinéma juif
en allant dans les salles. Alors effectivement, la VOD c'est bien, c'est un nouveau mode de consommation aussi du cinéma aujourd'hui, et ça permet à des personnes qui peuvent pas se déplacer évidemment d'avoir accès à la programmation, et c'est une grande richesse. Et un outil incroyable, mais quand on peut se déplacer en salle, rien ne remplace évidemment l'expérience du cinéma sur grand écran et en cinéma. Et il faut aller dans ces cinémas à Paris, au Lincoln, dans les cinémas en province, en région parisienne et en province, qui participent aussi au festival.
Alors il faut dire aussi que ce festival Diasporama est soutenu par un certain nombre d'institutions, par des partenaires, par des organisateurs. Quels sont-ils ?
Alors la DILCRA, que je salue, ils sont partenaires depuis l'année dernière. Ils ont totalement flashé, c'est le mot qui convient, sur le festival Diasporama, de par son côté unique en fait. Puisque comme j'ai dit, c'est le seul festival de cinéma juif en France. Et puis, évidemment, la Fondation du judaïsme français, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'Institut Alain de Rothschild, le FSJU, évidemment, qui est un partenaire très fort, hein, de Diasporama, qui est co-organisateur. L'Audacège, cette année, notamment pour le film dont Lise a parlé, le très beau documentaire Looking for Yotam. Et puis l'association Verbe et Lumière, qui soutient également la programmation. Ce sont des soutiens indispensables, évidemment, pour la réalisation et la bonne marche de ce festival.
Lise, si vous deviez faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive pour les inciter à découvrir cette 5e édition de Diasporama, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Mais je leur dirais que dans cette période compliquée, c'est bien de sortir ce champ de ou apprendre des choses, ou rencontrer des gens, et qu'il n'y a pas de meilleure possibilité pour ça qu'un festival de cinéma juif qui a 1000 facettes dans lesquelles vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez le Mossad, la musique, la danse, l'humour, ou si vous pensez qu'il faut qu'on discute de judaïsme, de Shoah ou de transmission des valeurs dans la famille, il y a forcément un film pour vous, donc on vous attend.
Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier, Fabienne Cohen-Salmon et Elise Ben-Kemoun. Vous nous avez donné envie d'aller voir des projections de ce festival Diasporama, Regard sur le cinéma juif international, qui aura lieu du 28 janvier au 10 février 2025 en salle sur toute la France et en ligne. Pour toute la France et même dans les dom-tom, toutes les informations sont disponibles, vous l'avez dit, sur le site officiel diasporapa.net. Et évidemment, c'est un acte aussi de soutien, pas seulement l'envie de se dépayser, de se changer les idées, de pouvoir aller dans un cinéma, voir des films à thématique juive. Et il faut vraiment y aller.
Oui, complètement. Merci beaucoup Sandrine, de votre accueil. Et venez au festival. Voilà.
Bonsoir et à bientôt.